On l'a vu dans des précédentes communications, nous sommes beaucoup dans la construction mentale, et la frontière est fondamentale dans la construction mentale, puisque la nature ne connaît pas de frontières, je dirais, de manière spontanée. Et ça nous rappelle que l'Europe est elle aussi une construction mentale dans laquelle les Celtes jouent un certain rôle, pour des raisons que je ne m'explique pas, qu'on pourrait être trouver. On n'a jamais cherché du côté de l'âge du bronze, par exemple, des modèles de l'Europe, alors qu'en fait, il y a des éléments très communautaires à ces époques-là. Le monde celtique a beaucoup fasciné et on y cherche pas mal de choses qui sont un peu des clés de lecture de notre vision de l'Europe. Un des exemples, par exemple, assez intéressant, que j'ai repris au XIXe siècle, comme ça c'est pratique, on n'a pas à rentrer nous dans le débat, c'est le débat très agressif entre Fussel de Coulanges, Darbois de Jubainville, pour savoir si les Gaulois ont connu la propriété privée du sol. Bon, évidemment, c'est un débat qui pour nous paraît un peu dépassé, puisque nous vivons dans un système de propriété privée complet. Mais à l'époque, lorsqu'ils en débattaient, c'était la question de savoir si les Gaulois l'ont connu. C'est que c'est un fait naturel extrêmement ancien et donc il est légitime de le maintenir. S'ils ne l'ont pas connu, on peut revivifier le discours des socialistes de l'époque qui est abolissons la propriété. Vous voyez que le petit jeu qu'on fait en permanence avec ce monde ancien cherche à chaque fois à légitimer par la durée un certain nombre de nos systèmes de pensée. Alors pour la frontière, c'est un petit peu délicat, mais il est évident qu'on s'est battu sur la notion de frontière gauloise ou pas, et le débat, il faut bien l'avouer, est loin d'être fini. Cette question de l'ancienneté de la frontière, de l'ancienneté dans une culture qui serait en plus une culture, on va dire, indigène, installée, ben c'est bizarre, on parle d'impérialisme romain, pas d'impérialisme celtique. Alors effectivement, archéologiquement, on peut pas dire qu'ils sont arrivés en force, ni que dans le cas des Romains, il n'y a pas de problème, et il y a un auteur grec, je ne sais pas plus tard, qui raconte ça, qui dit qu'aucun non-romain n'a jamais trouvé la moindre qualité de tolérance, de magnanimité ou quoi que ce soit de la part des Romains. Ce sont des brutes. Ils arrivent, l'épée à la main, ils tuent, ils pillent, ils violent, ils prennent ce qui les intéresse et voilà. C'est relativement simple. On n'a jamais projeté ce genre d'idée sur les Celtes et donc du coup, ce que eux ont fait de l'Europe peut nous paraître plus légitime pour s'en inspirer. Et on voit que ce n'est pas si simple que cela. La Vulgate actuelle, en matière de frontières celtiques, tend à envisager l'idée d'exister en territoire bien délimité. D'ailleurs, en 2000, l'Association française d'études de l'âge du fer avait tenu un colloque qui s'appelait « Territoire celtique », ce qui implicitement sous-entendait qu'on envisageait les communautés celtes comme se reconnaissant un territoire. Alors, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des nomades, une chose est de se reconnaître en tant que communauté humaine, une autre est d'identifier cette communauté humaine à un espace géographique délimité, etc. Sauter de l'un à l'autre de manière arbitraire est toujours un petit peu dangereux. Dans l'introduction, Philippe Levaux, grand provocateur, rappelait quand même que les géographes du XIXe siècle ont joué un rôle majeur dans l'élaboration d'une carte de la Gaule. Tout le travail de gens comme Vidal de Lablache, qui a quand même marqué toute l'école géographique et historique française, a conduit justement à penser l'Europe ancienne, ou le monde ancien, tout simplement, en termes de territoire, dans un discours moderne, tout à fait logique pour la génération de Vidal de Lablache, puisque justement, l'Europe des nations se mettait en place avec ses frontières, discutées de guerre en guerre. Alors bon, il y a les grandes comme 14-18, mais un tas de petits conflits antérieurs. Le règne de Napoléon III en est scandé de petits problèmes de frontières plus ou moins importants, parfois résolus de manière discrète, comme la question Savoie-France. Alors, il y a quelques arguments sur en faveur d'une idée de territoire celtique relativement borné. Alors l'identité effectivement de ces communautés, et en particulier chez César au tout début de la guerre des Gaules, les fameuses tables de recensement des Helvètes qu'ils trouvent, dit-il, dans leur chariot, et qui indiquent que les Helvètes auraient eu une conscience très claire de leur groupe, puisqu'ils recensaient hommes, femmes, enfants, etc., de manière claire. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, en termes de communauté, j'entends, pas en termes de territoire, puisqu'ils sont justement en train de migrer, c'est-à-dire de transgresser le territoire. Donc cet élément existe. Stéphane Fichtel est allé beaucoup plus loin en faisant un petit jeu littéraire, en disant qu'après tout, si César utilise le terme civitas pour parler des communautés gauloises, ça veut dire qu'on peut appliquer à ces communautés gauloises tout ce qui concerne la civitas romaine, c'est-à-dire en particulier le territoire borné. Bon, il est évident que ça, c'est... là c'est lui qui transgresse un interdit historique qui est celui de l'extrapolation à partir du vocabulaire. Ça va un petit peu trop loin, mais il y a d'autres éléments. Vous savez bien que dans la littérature on parle souvent d'oppida ou de sanctuaire de frontières. On identifie donc un certain nombre d'établissements celtiques comme étant des marqueurs d'une frontière entre deux peuples. précisons que les gens qui vous en parlent ne vous donneront pas de définition du peuple. Et puis l'archéologie des 30 dernières années, alors je crois que j'ai commencé par ça, a beaucoup utilisé cette petite chose. Alors, je suis allé le prendre chez des géographes contemporains, donc des gens, je ne sais plus quel sujet, oui, c'est à partir d'agences, oui, c'est les zones d'activité d'agences commerciales, donc, tout à fait en dehors, mais c'est cette technique qu'on appelle les polygones de Thyssen, qu'on commence beaucoup à critiquer maintenant parce qu'on s'est rendu compte que c'est un petit peu dangereux. Alors les polygones de Thyssen, c'est relativement simple, ça consiste effectivement à chercher les médianes entre deux points de diffusion. Et effectivement, la définition qu'en donnent les géographes est une définition, lorsqu'ils utilisent ces polygones de Thyssen, c'est de définir des secteurs de diffusion à partir d'un centre. Et vous voyez là, les centres sont en bleu. Alors, je ne sais pas quel département choisi d'ailleurs. Et vous avez les agences et on définit les secteurs. Alors, les commerciaux connaissent bien ça, hein, c'est le rayonnement de leur activité. Et on a souvent fait ça, c'est-à-dire qu'à partir d'un centre d'OPIDA, on définit des secteurs. Le problème, c'est que ce modèle cartographique conduit effectivement à penser, comme le fait, de nouveau, je m'en prends ce pauvre Stéphane Fichtel qui m'en veut beaucoup, mais on passera à d'autres documents qu'il a produits qui sont intéressant à mon sens, c'est cette carte-là qui est une carte, je vous la prends, c'est une carte très récente, hein, des ouvrages récents de Fichtel, mais qui reprend en fait toute une littérature, ça remonte très très loin, on va allègrement chez Camille Julian, qui est évidemment à la fin du 19e, au début du 20e, le chantre des nations, hein, c'est un républicain protestant et farouchement nationaliste, évidemment il est né au moment de la grande défaite française, il est marqué par cela, on transcrit les noms que l'on a chez César essentiellement ou chez Strabon sous forme de quasiment d'État. Vous voyez bien que ces frontières extrêmement nettement délimitées, mais c'est toujours quelque chose qui est un petit peu arbitraire. Évidemment, dans notre cas, je prends toujours chez lui, c'est assez amusant, lorsqu'on aborde d'autres domaines, c'est-à-dire qu'une approche archéologique cette fois-ci, il est évident qu'il va travailler autrement, il veut bien qu'ici il n'y a plus de frontières. Ce sont des zones culturelle, donc zone des résidences princières, le domaine global de l'Athènes ancienne, vous voyez, avec des traits en pointillés, des grandes aires, et à 100 km près, on n'a aucune précision. On n'est plus dans un monde de frontières, ici, on est dans une zone de diffusion de marqueurs culturels, dont on ne dit même pas d'ailleurs qu'ils définissent un peuple ou une entité qui se reconnaissent en tant que telle, comme une sorte de pré-nation. Alors, j'en montre juste d'autres éléments. Une des solutions adoptées, alors, c'est plus ancien, Barruol en 69, c'est la solution cauchemardesque pour celui qui lit, évidemment, parce qu'on se dit, oui, mais alors, il va jusqu'où? Il veut dire quoi exactement? Ça consiste à mettre les noms dans les endroits où on pense que, grosso modo, un peuple se trouve. Et vous voyez cette espèce de mosaïque de noms. C'est fascinant, cette carte de Barruol, parce qu'il y a un moment, on n'arrive même plus à la lire, tellement c'est dense. On ne sait plus très bien ce qu'il faut en faire. Mais ça évite le problème de la frontière, tout en pensant la frontière. Parce qu'en s'amusant, le texte qui accompagne la carte passe son temps à tenter de définir les limites de chacun de ces peuples. Mais elles ne sont pas sur la carte. Pour éviter. Mais tout ce problème de la frontière et de la carte, c'est la frontière est comme une projection mentale de quelque chose de naturel qui est le sol, mais sous une forme géométrisée. J'en ai pris une autre, voilà, ou d'autres types de représentations. Donc, peu importe, on a beaucoup de peine à représenter finalement la réalité du monde celtique. Alors, il faut que je fasse là un petit crochet parce que finalement, nous pensons l'histoire à l'envers. Il faut bien l'avouer, on a beau faire tous les efforts qu'on peut, nous avons essayé avec Jacques de remettre de temps en temps l'histoire pour qu'il évoque dans le bon sens. Il est vrai que nous écrivons sur le passé, donc nous remontons dans le temps. Et on a donc tendance à penser un passé lointain à travers un passé plus récent. On fait ce qu'on peut pour trier. Nous avons beaucoup de peine à penser à, je dirais, oblitérer tout ce qui s'est passé dans les 2000 ans qui nous séparent de nos Gaulois et d'essayer de revenir à cet état-là. Autrement dit, il y a dans notre manière de penser la géographie de l'Europe antique tout le crible du monde de pensée romano-étrusque. Alors, je m'explique un petit peu, parce que là, il y a quelque chose qui est extrêmement fondamental, c'est une pensée très spécifique de l'espace qui est restée dans nos mentalités et que nous avons intégrée tellement que nous ne nous rappelons même plus exactement d'où elle nous vient. Et qui est exprimé de manière très claire par Varron, toujours lui, lorsqu'il explique ce que c'est que le pomerium, donc cette enceinte qui va délimiter la ville, et il dit donc que c'est un rite étrusque, pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas, et il dit que justement, on trace à l'arrière un sillon et que ce sillon, dit-il, est une limite extrêmement forte. Et dit-il, la terre qui était repoussée par l'arrière, c'est pas lourd, hein, nous on pense à la charrue, mais disons nos charrues modernes qui ont avec des socles de plus d'un mètre, ça repousse un énorme talus de terre. L'arrière antique, ça fait juste un petit sillon, hein, c'est pas grand-chose. La terre qui était repoussée sur le côté, il dit, on l'appelle le mur, et le sillon de l'arrière, on l'appelle un fossé. Ça, c'est amusant quand on parle de fortification. En fait, ça, c'est amusant. Et évidemment, ça mène tout droit à l'épisode extrêmement connu de Rémus qui saute par-dessus le sillon que vient de tracer Romulus et qui est tué instantanément. Je vous rappelle que la condamnation et l'exécution de quiconque franchit un rempart, enfin rentre dans une ville en passant par le rempart au lieu de passer par la porte, reste dans les lois municipales d'époque impériale. Donc, c'est pas uniquement du mythe. C'est quelque chose qui est extrêmement net dans ce mode de pensée. On ne peut franchir l'espace délimité que par les portes qui y sont autorisées. Ailleurs, on commet un crime religieux. Alors, c'est vrai que l'allusion derrière, c'est le franchissement du rempart en force, l'échelle, l'épée, etc. Mais il est quand même bien précisé que vous ne rentrez pas dans une ville en passant par-dessus le mur. Vous n'y rentrez que par la porte quand elle est ouverte, ce qui nous renvoie à ce que Jacques évoquait, c'est la porte fermée, hein, qui est quelque chose d'extrêmement agressif. Alors évidemment, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est vrai que la ville dans l'Antiquité est évoquée à travers son rempart. Elle est résumée par son rempart. Vous avez un cas ici, dans le cas de Minturne, par exemple, sur l'Iliade des Grammatiques, j'y reviendrai. J'ai pris qu'une image pour abréger un petit peu, mais on en a pas mal. L'image de la ville, c'est très clair, c'est le rempart qui la ceint. Donc c'est une limite tout à fait stricte, mais avec un élément d'ailleurs qu'on oublie trop souvent, c'est que le droit religieux joue un rôle fondamental là-dedans. Pas seulement pour la limite entre la ville et la campagne, hein, l'intérieur et l'extérieur, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, mais entre un secteur de territoire et un autre secteur de territoire. Dans le monde étrusco-romain, vous franchissez chaque fois une limite qui est extrêmement clair, c'est peut-être la première fois qu'on a cette notion de limite théorique au sens des géomètres d'une ligne que vous franchissez, vous allez d'un monde à un autre monde. Le droit religieux est différent, votre statut y est différent, ce que vous êtes peut changer. Et il y a des épisodes assez étonnants d'ailleurs dans le franchissement du Pomerium que cite Cicéron, puisqu'il rappelle que normalement quand un magistrat doit tenir une cérémonie sur le champ de Mars, ben, il faut qu'il fasse des sacrifices réguliers et qu'il change sa situation à chaque fois. Rappelez-vous aussi qu'on change de tenue. Quand un gouverneur de province part, quitte Rome, il va mettre son manteau de commandement au moment où il franchit le Pomerium. C'est très compliqué. Et nous dit-il, Sempronius Gracchus, le père des Gracques, ayant devant présider une cérémonie sur le champ de Mars, est amené à un moment ou l'autre à rentrer dans Rome pour une commission, repart au pas de course sur le champ de Mars, préside les comices, on élit des consuls, tout se passe très mal. Et tout d'un coup, il réalise qu'il a franchi deux fois la limite. À chaque fois, il aurait dû refaire les rituels qui définissait son statut dans le nouvel espace où il était. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est prégnant dans nos statuts, parce qu'effectivement, le passeport, le visa sont finalement un héritage très abattardi. Finalement, on n'est pas obligé de faire un sacrifice chaque fois qu'on change d'état. Heureusement, ça nous simplifie la vie. Mais, et depuis Schengen, on a encore un peu simplifié les choses. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps, on présentait son passeport, on le faisait tamponner, etc. On avait gardé quelque chose, cet élément-là. Vous changez de statut. Lorsque vous passez une frontière, donc cette ligne virtuelle, vous n'êtes plus un citoyen de l'état dans lequel vous arrivez. Vous êtes un étranger et tout d'un coup, vos droits change complètement. Vous voyez, c'est un héritage qui est assez marqué de ce genre de choses. Il y a donc un certain nombre d'éléments qui sont justement le marquage. Alors, dans ces franchissements, un des franchissements typiquement à problème, pour un latin, c'est le franchissement d'un fleuve. Hein. Alors là, en l'occurrence, ce sont les armées de Trajan qui franchissent le Danube, mais je vous rassure, sur la colonne, au bas de la colonne, il y a les sacrifices faits par Trajan, puisque il fallait le faire. On avait changé d'espace, on passait dans un espace pérégrin. Il y a évidemment le franchissement du Rubicon. Ça, c'est de l'impiété totale de la part de César. Il franchit en armes le Rubicon, etc. Ou rappelez-vous, la première guerre punique, on en a parlé, comment peut-on faire passer la mer à une armée? Et qui, pis est qu'une armée, il y a un pontife qu'il faut qu'on envoie avec l'armée. Est-ce qu'un pontife peut franchir la mer? La plupart des Romains disent que non. Il ne peut pas, parce qu'au-delà, il n'est plus lui-même. Alors, il y a des solutions. Le Romain est pragmatique. Oui, c'est des brutes, mais c'est des brutes pragmatiques. Et une des solutions qu'ils adoptent, c'est très simple. Alors ça, on la connaît, nous aussi. C'est assez amusant de voir à quel point on plonge dans nos racines assez loin. C'est ce qu'ils appellent le jus italicum, le droit italique, qu'on connaît peu. Ça a peu été étudié par les juristes, puisque c'est des études un peu anciennes, souvent. Ça permet, en fait, de désigner une portion de territoire comme étant un bout d'Italie. C'est vrai que la notion d'Italie a grandi progressivement pour aller jusqu'aux Alpes, mais on peut décider qu'un bout en dehors est italique. Par exemple, Lyon devient colonie de droit italique, ce qui fait qu'elle échappe à toutes les particularités de la Gaule. Elle devient comme un bout d'Italie. Mais ça peut être plus drôle, de notre point de vue. C'est-à-dire qu'un général qui doit faire un sacrifice qui ne peut se faire qu'en Italie, encore un problème religieux, hein, quand vous avez des rituels qu'on ne peut faire que sur sol italique, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il délimite quelques mètres carrés par terre, il dit « là, c'est l'Italie ». Il fait son rituel et il est en Italie momentanément. Donc vous voyez, finalement, notre extéritorialité, nos enclaves, tous ces petits machins que nous avons hérités souvent du Moyen-Âge, sont aussi des héritages de cette notion de la territorialisation de la communauté et de la pensée religieuse. Alors nous, on l'a transcrit sur le domaine civil, c'est plus seulement dans le domaine religieux, mais fondamentalement, ça vient de là. Et évidemment, tout cela est marqué dans le sol, soit à travers la centuriation que vous avez ici, par exemple, soit, nous disent les grammatiques, dans les zones non centuriées, on identifie des monuments, des éléments marquants généralement d'origine anthropique, qui vont eux aussi délimiter. Et ce qui est le plus délimitant, évidemment, alors, notre exemple, j'aime beaucoup ces vignettes de grammatique parce qu'elles donnent, elles éclairent énormément la pensée territoriale des anciens. Et ce qui est évidemment le plus marquant, c'est la borne dont vous voyez qu'elle a, c'est nos bornes à nous, hein, celles dans lesquelles il y a fort longtemps, certains semaines peut-être, on vendait les nougats à Montélimar, hein, les petites bornes N7. Maintenant, il y a l'autoroute, évidemment, ça ne marche plus. C'est la forme de la borne, elle est ici. Alors là, c'est une borne, c'est une borne d'une tribu de Rome, donc c'est une borne interne à Rome. Ce sont des bornes partout pour tout. Et ce qui est amusant, c'est que la forme de la borne, vous la retrouvez pour un type de territoire très particulier qui est le lopin de terre funéraire. Hein. La concession funéraire que vous achetez, elle obéit à un droit sacré encore différent de celui qui est de l'allée du même cimetière, tout ça n'est jamais très simple, elle prend la forme d'une borne, et pour cause, puisque c'est un marqueur territorial. Il y a donc une pensée, il y a une pensée territoriale extrêmement forte dans ce monde latin. Bref, c'est là qu'il nous faut revenir aux Gaulois, parce que nous les percevons à travers ce crible-là, qui est la manière dont un Romain tentait de les interpréter, et en tout cas la manière dont on les a transcrits une fois intégrés dans l'Empire, et la manière dont nous pensons les territoires, et nous pensons la frontière comme cette limite qui est ce point de basculement d'un territoire à un autre, relativement virtuel. La question c'est, est-ce qu'on peut appliquer ça directement à des Gaulois? Alors l'argument de la civitas avancé par Fichte ne tient pas un seul en route. On sait très bien que, d'une part, les cités de la Gaule impériale ne recouvrent que très imparfaitement les communautés que César a rencontrées quelques décennies plus tôt, donc on a modifié le territoire. Strabon, on l'oublie trop souvent, il y a un petit texte. Strabon n'est pas toujours d'une vivacité intellectuelle extraordinaire, on va dire. Mais il dit tout d'un coup, les Romains organisent les territoires au gré de leur intérêt et les dénomment au gré de leur intérêt et de leur mode de gestion. Ce n'est pas du tout le respect. Donc on ne peut pas utiliser ça comme cet élément. Les polygones, là aussi, Philippe Levaux le rappelle bien, aucun géographe n'a pensé que les polygones ne permettait de définir un territoire au sens politique. C'est un abus que les archéologues ont adopté, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Les sanctuaires et les hôpitaux de frontières, ça repose sur un argument circulaire, c'est-à-dire qu'on pense que la frontière entre deux peuples est là, donc quand ils nous trouvent un sanctuaire ou un oppidum, on dit c'est un sanctuaire ou un oppidum de frontière. Et du coup, on dit il y a un sanctuaire de frontière, donc il y a la frontière. Vous voyez bien que, finalement, on n'avance pas très très loin. Alors, il y a un autre argument qui était développé. Jérôme France rappelle qu'il est dans sa thèse que c'est un peu ténu. C'est l'idée qu'il y a des droits de douane. Et effectivement, si vous lisez la traduction de Constant de César, la vieille traduction, on vous dit, par exemple, que chez les Éduins, il y a des droits de douane. S'il y a douane, il y a frontière. On a un certain nombre à se souvenir, effectivement, de l'époque où on allait déclarer en douane. Et les Suisses ont maintenu leur douane, puisqu'ils ne sont pas européens. Ceci dit, le terme utilisé est un terme extrêmement intéressant, c'est portorium, qui est le terme latin, effectivement, pour désigner ce que nous appelons les droits de douane, mais dont Denis van Berchom avait rappelé il y a quasiment 50 ans, c'est un article 59, que le terme de portorium nous rappelle qu'à la base, ce qui est un droit de douane, c'est un droit de portage. C'est-à-dire qu'il est justifié par le fait que vos marchandises seront portées à travers le territoire d'une communauté. Et c'est peut-être là qu'on a l'élément intéressant. C'est-à-dire que vous avez des communautés gauloises qui s'auto-identifient, on va dire très clairement, ils se reconnaissent eux-mêmes comme tels. Alors après, les stratifications internes, ça on n'y comprend strictement rien, leur hiérarchie interne non plus, mais il y a des grands groupes qu'on identifie, des Éduins, des Séquanes, etc. Cela, on dit ok. Ensuite, que se passe-t-il quand on passe de chez l'un à chez l'autre? On n'a jamais été capable de se mettre d'accord et on n'a aucun moyen de dire qu'il y a une transgression d'une véritable frontière. Des bornes, ils n'en ont visiblement pas eux-mêmes. On n'en mentionne absolument pas, Or, on sait en revanche que chez les Gaulois du Nord, par exemple, il arrive qu'on vienne demander aux Romains de résoudre des problèmes de conflits territoriaux en venant poser des bornes. C'est eux, les professionnels des bornes et du travail de géomètre. C'est pas le Gaulois. Le Gaulois, ce qu'il constate, c'est qu'à un moment, il avance et qu'il croise un autre. Soit on s'arrange, soit on se tape dessus. Mais la notion de frontière n'est pas forcément claire. Jacques Armand, d'ailleurs, soupçonnait dans les années 70 que la frontière était en fait elle-même un espace. Qui peut être un espace commun, un espace de pâture par exemple, ou un espace un peu sauvage, inoccupé, relativement souple. La notion de portorium me permet à mon sens de mieux comprendre ce qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a vos marchandises qui vont traverser la Gaule sont portées par tel peuple qui perçoit un droit pour la traverser des secteurs qu'il contrôle, et sanctuaire, oppidum de frontière, qu'on appelle nous de frontière, mais c'est vraiment faux, sont probablement les endroits, les points de rupture de charge, ce qui n'est pas la même chose qu'une frontière. C'est l'endroit où les mulets des uns vont décharger, où les mulets des autres pourront reprendre pour porter plus loin. Et vous payez d'avance, évidemment, vous êtes prudent. C'est-à-dire que ce n'est pas la frontière qui délimite des plans géométriques bien définis, avec ce fameux théorème que vous connaissez, ce théorème des géographes, enfin, de topologie, qui dit qu'on peut écrire n'importe quelle carte de géographie avec quatre couleurs. C'est plutôt l'idée que des communautés occupent un certain espace qui est mouvant, qui peut changer, qui peut grandir, qui peut rétrécir éventuellement, et qu'il y a une transition qui se fait à travers des faits matériels vers une autre communauté. Pour autant, il me semble qu'on ne peut pas remonter jusqu'à nos Gaulois pour justifier les frontières européennes. Ceux qui les mettent véritablement en place et ceux sur lesquels on se fonde, c'est justement les Romains, lorsqu'ils imposent leur empire, imposent des limites assez strictes et posent des bornes. C'est la borne qui fait la frontière. Et la borne, souvent, vous le savez, a son trait dessus qui indique bien à quel point la frontière est un élément qui n'a pas de consistance matérielle. Pour le Gaulois, la limite entre deux communautés, à mon sens, a probablement une consistance matérielle relativement forte qui donne plus de souplesse au mode de fonctionnement. Voilà, je vous remercie. Il faut faire très bref, donc voilà, ce sera plus long dans l'écrit.